Oui, Jupi.
Voilà. Bonjour à tous. Je voudrais d'abord remercier l'Observatoire de Sida et des Sexualités et Thomas de nous avoir invités pour présenter, je dirais en complément de l'aspect scientifique des choses, le travail du comité associatif et d'une manière générale d'ailleurs. Ce que je voudrais vous présenter, c'est le travail que nous avons mené depuis le début, depuis notre première rencontre avec Jean-Michel Molina sur le thème de la recherche en prévention biomédicale. Et en fait, ce que nous allons faire, c'est vous présenter ça à deux voix avec Bruno. En séparant, je dirais, en présentant d'abord tout le travail qui a été fait avant la constitution de l'essai, et dans une deuxième partie, le travail du comité associatif qui a été créé en même temps que l'essai hyper-IF. Et donc, effectivement, je commencerai par cette partie dans laquelle je vais essayer de vous décrire un peu la méthode que nous avons employée, la démarche que nous avons eue pour mettre en place un processus de mobilisation, mais surtout de consultation communautaire en France. Ce qui, en gros, correspond à l'idée qu'on se faisait de ce qu'il fallait faire pour construire un contexte favorable à ce type de recherche en France, une sorte de community empowerment, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, et pour commencer, je voudrais vous présenter le groupe interassociatif TRT5, groupe constitué en 92 qui rassemble des représentants des principales associations de lutte contre le sida en France et qui travaille depuis 92 sur la recherche biomédicale, plus exactement sur la recherche clinique dans le VIH, même si aujourd'hui on travaille également sur les hépatites. Et qui est en fait le premier groupe le groupe dont est issue la réflexion communautaire sur la question de la recherche en PrEP. Alors, comment les choses se sont-elles déroulées en fait ? Eh bien, nous avions organisé en 2009, nous avions organisé un forum à l'usage des associations LGBT de lutte contre le sida, de manière à leur transmettre un certain nombre de les acculturer au monde de la recherche et de leur transmettre un certain nombre de connaissances utiles pour les acteurs en prévention, de connaissances scientifiques. Et c'est à cette occasion-là que le professeur Jean-Michel Molina est venu nous présenter un projet qui, à l'époque, ne s'appelait pas hyper-gay, qui s'appelait simplement projet de recherche sur les PrEP chez les gays en France et au Québec. Et donc, et nous a proposé de nous associer à ça. Alors, effectivement, c'était quelque chose de particulièrement innovant pour nous, parce que pour le groupe interassociatif TRT5, qui avait l'habitude de se pencher beaucoup plus sur des projets de recherche clinique et de travailler, je dirais, dans un domaine dans lequel finalement les personnes concernées étaient avant tout séropositives, subitement se projeter dans un projet de prévention était quelque chose d'un peu original. Et pourtant, si nous avons accepté ça, c'est essentiellement parce que le TRT5 avait une expérience importante de l'usage des médicaments chez les personnes, qu'on avait aussi une expérience, on faisait partie des groupes et des associations qui avaient une expérience du terrain de la recherche biomédicale, et puis que par ailleurs un certain nombre d'associations membres du TRT5 étaient des associations qui travaillaient dans le champ de la prévention et donc était particulièrement intéressé par ce thème. Mais on s'est rapidement rendu compte que pour arriver à un résultat intéressant, il fallait qu'on construise un groupe de travail adapté à la circonstance, c'est-à-dire que le groupe plénier du TRT5 n'était pas forcément adapté. Et en particulier, Dans la mesure où le TRT5 a toujours eu comme habitude de défendre les intérêts des participants à la recherche, ce qu'on s'est dit, c'est tiens, là, ça va un peu nous changer d'orientation, puisque les participants à la recherche, là, sont séronégatifs. Et par ailleurs, viser la cible de l'essaim étant la communauté gay, forcément, on s'est dit, pour être un peu plus adéquate, il faut qu'on arrive à construire un groupe de travail dans lequel on soit capable d'intégrer des associations, des représentants du monde LGBT, des associations gays, qui représentent beaucoup plus que le TRT5, les hypothétiques participants à une recherche de ce genre. Et c'est donc comme ça que nous avons créé un groupe de travail sur la recherche en PrEP au sein du TRT5. Alors ce groupe s'est mis à travailler et a eu en fait rapidement deux objectifs. Le premier, c'était calqué sur les principes du TRT5 lui-même, c'est-à-dire c'était effectivement d'essayer de réfléchir aux besoins des personnes concernées et d'essayer de promouvoir au sein des organisateurs de l'essai les besoins et assurer la protection des personnes qui allaient participer à ce type de recherche. Mais quand même, ce qui nous intéressait, c'était aussi d'aller vers la communauté la plus concernée. Et donc, pour ça, on a décidé de se lancer dans un travail de fou, mais je crois que Jean-Michel Molina pourra le confirmer. De toute façon, on s'est bien rendu compte que travailler sur un projet de recherche de ce type-là en France était de toute façon innovateur pour tout le monde, qu'on allait défricher que des terrains qu'on ne connaissait pas et qu'on allait vraiment devoir inventer en marchant tout ce qu'on allait devoir produire. Et donc cette idée que nous avons eue au groupe PrEP du TRT5 de vouloir aller à la rencontre des populations concernées, de monter une consultation communautaire en France, était quelque chose de complètement inédit pour nous, et c'est une des raisons pour lesquelles je tenais particulièrement à vous présenter, je dirais, beaucoup plus cet aspect comment s'y est-on pris et comment a-t-on fait ce travail, plutôt que de, je ne m'apesantirai pas tellement sur les résultats, parce que les résultats, en fin de compte, c'est ce qu'on vit aujourd'hui et qui sera présenté par Bruno dans la partie suivante. Donc, effectivement, pourquoi une consultation communautaire, en fin de compte, c'est simplement parce que, effectivement, on s'est rendu compte d'abord qu'on ne représentait, enfin, on se sentait difficilement en capacité de pouvoir représenter objectivement les futurs participants, dans la mesure où les associations de lutte contre le sida sont, jusque-là, ont plutôt été représentants de personnes séropositives, donc pas les gens visés par une recherche de ce type, et que effectivement le champ qui s'ouvrait là posait beaucoup de questions, et en particulier le problème qu'on allait devoir recruter des gens dans un essai qui n'avaient pas forcément, contrairement à une recherche clinique, qui n'avaient pas forcément besoin de ce qu'on leur proposait, du moins qu'il fallait créer le besoin en quelque sorte. Et en premier lieu, il fallait commencer par essayer de leur expliquer de quoi il s'agit. Et donc, forcément, dans un processus de consultation communautaire, il fallait que l'on commence par un processus d'information des gens, d'explication, de essayer de faire comprendre aux gens, en fin de compte, quel était l'objet de la discussion qu'on voulait avoir avec eux. C'est ce qui, d'ailleurs, nous a pris probablement le plus de temps dans le processus de consultation. C'est qu'on a passé quand même beaucoup de temps à d'abord dispenser de l'explication et à faire naître un petit peu de la réflexion chez les gens, parce que on l'a bien vu, beaucoup de gens étaient réticents simplement à participer à ce processus, uniquement parce qu'ils disaient « mais moi, j'y connais rien ». Et on passait, nous, notre temps à expliquer, mais justement, c'est pour ça qu'on organise ça, c'est pour essayer de vous expliquer de quoi on est en train d'essayer de vous parler. L'idée étant que, de toute façon, quand on veut faire quand on veut monter un tel essai et arriver à recruter des gens, eh bien, il est évident que on estimait deux choses. La première, c'est que ça ne pouvait pas se faire sans le soutien de la communauté gay, parce que forcément, c'est quand même une communauté dans laquelle les informations circulent, dans laquelle il y a une sorte quand même d'esprit de corps, qui fait que immanquablement, si il y avait eu une opposition à ce type de recherche, c'est quelque chose qui serait traduit dans les faits, c'est-à-dire que le recrutement aurait été quasiment impossible. Et par ailleurs, ce qui nous intéressait aussi, je dirais même ce qui nous intéressait au premier chef, c'était également d'être capable de faire à ce que la communauté gay, qui a été, je dirais, très à la pointe en matière de techniques de prévention dans les années 80, notamment, c'est quand même beaucoup dans la communauté gay que c'est implanter l'idée de l'utilisation du préservatif à une époque où, je veux dire, les premières idées qui étaient venues pour se prémunir de la transmission du VIH, c'était l'abstinence, si je puis dire. Et donc, effectivement, la communauté gay, qui a toujours été très inventive en matière de solutions de prévention, ce que l'on voulait, c'était qu'elle s'approprie cet outil, c'est-à-dire que ce ne soit pas une proposition qui soit faite comme ça, et que les gens soient libres d'accepter ou de refuser. Ce qu'on voulait, c'était vraiment arriver à faire à ce que les gens se réapproprient la démarche en tant que démarche de prévention, qu'ils la transforment, qu'ils la forment à l'idée qui s'en faisait, et que ceci pourrait nous alimenter effectivement en réflexion à proposer dans le projet de construction de l'essai de PrEP sur lequel on avait commencé à travailler. Alors effectivement, c'est pour ça que concevoir la méthode d'une consultation communautaire, pour nous, ça voulait dire tout simplement effectivement à la fois faire un travail d'information, c'est-à-dire que notre groupe spécialisé dans la PrEP au TRT5, comprenant des représentants des représentants au comité de pilotage de l'étude, devait effectivement alimenter de manière, enfin par cercles concentriques et par différentes étapes, devait alimenter en information le mieux possible à la fois les associations membres du TRT5, mais aussi les associations communautaires, les médias communautaires, et au-delà, effectivement, d'où l'organisation pratique de cette consultation communautaire, aller à la rencontre des gens dans la communauté, des associations LGBT d'une manière générale, mais surtout aussi pour en attendre un retour, c'est-à-dire essayer d'interroger les gens sur quelles étaient leurs attentes par rapport à des idées, à cette idée d'une prévention biomédicale qui était à ce moment-là quelque chose de totalement nouveau pour tout le monde et dont on a bien vu que la plupart des gens n'avaient vraiment pas d'idée au départ. Alors, comment a-t-on organisé ça, effectivement? En fait, on a procédé en deux étapes. On a commencé par monter une réunion nationale dans laquelle on a essayé de réunir la plupart des leaders d'associations locales, des personnes qui comptent, que ce soit effectivement des associations de lutte contre le sida, aussi bien que des associations LGBT. On a essayé de réunir un petit peu des gens de toute la France dans une réunion centrale à Paris, qui était en février 2010, histoire de leur présenter le projet et de leur dire que on était bien vaillants et décidés à mener ce combat, mais qu'on ne le ferait pas sans eux, parce que aller monter une consultation communautaire, aller visiter toute la France pour travailler sur un projet avec les gens, c'est quelque chose qui devait mobiliser plus que notre petit groupe et qu'on n'aurait pas forcément l'énergie ni la capacité de faire ce travail-là tout seul. Et donc, ce qu'on voulait, c'était d'avoir des appuis régionaux en France de manière à pouvoir monter ce travail. Cette première réunion nous a permis effectivement de voir émerger des gens intéressés par le projet, et c'est comme ça qu'a pu se monter l'étape suivante, qui était d'aller à la rencontre des communautés dans les principales villes de France. On a pu commencer à monter on a pu voir dans quelle ville on allait pouvoir organiser les choses et à quel endroit on avait du soutien, on avait des gens qui étaient prêts à s'investir sur le terrain. Et puis, on a évidemment pensé à une solution qui est aujourd'hui incontournable, pour ne pas dire tout à fait classique, c'est bien entendu d'utiliser d'utiliser les possibilités d'Internet, c'est-à-dire d'avoir également le soutien de médias qui ont pignon sur rue, ou pignon sur Internet plutôt, qui étaient capables d'organiser, à la fois de dispenser de l'information, mais aussi d'organiser des débats, des chats, des forums, des divers outils de ce genre-là qui ont été mis en place. Et donc, voilà, je veux dire, on avait, à partir de là, on avait le cadre dans lequel travailler. Il n'y avait plus qu'à se mettre à l'ouvrage, c'est ce qui s'est fait dans l'année 2010. D'abord par la diffusion d'affiches, invitant les gens à des réunions, et puis ensuite, on a pris notre bâton de pèlerin, on a été faire le tour de France. On a, de cette manière-là, on a organisé des réunions dans 10 villes de France, Bordeaux, Lille, Lyon, où il y a eu 2 réunions successives, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, à Paris aussi on a monté 2 réunions, à Strasbourg et à Toulouse. En fait, notre idée, c'était, on aurait bien voulu faire 2 réunions à chaque fois, parce qu'on se rendait bien compte qu'un processus de consultation communautaire est un truc long et difficile, parce que au départ, les gens ne comprennent pas de quoi vouloir parler, c'est normal, vous arrivez avec un sujet nouveau, et que les meilleurs résultats, effectivement, je pense à Lyon en particulier, ont été obtenus de cette manière-là, c'est-à-dire à partir du moment où on montait une première réunion avec plutôt des responsables associatifs, des gens qui avaient une certaine place dans la communauté, de manière à ce qu'ensuite eux se fassent transmetteurs d'informations, relais de mobilisation, et qu'on puisse ensuite faire une deuxième réunion où le public serait plus large, où serait plus, je dirais, moins militant, mais plus général, et qu'on aille, je dirais, plus en profondeur dans la communauté. C'était un petit peu l'objectif qu'on s'était fixé, qui n'a pas toujours été atteint de cette manière-là, mais qui a quand même été, qui a quand même pu se faire dans certains contextes. Et effectivement, ce qu'on a vu, c'est que malgré tout, c'était très difficile d'aller toucher ce qu'on appelle toujours dans nos discussions le gay lambda. En fin de compte, l'immense majorité des gens qui ont répondu à ces débats ont été quand même beaucoup plus des militants associatifs, des gens qui étaient déjà engagés d'une manière ou d'une autre. On a quand même eu effectivement des personnes qui sont arrivées parce que le sujet les intéressait, mais c'est vrai que dans la plupart des cas, on s'est bien rendu compte que les gens avaient une certaine hésitation vis-à-vis de ce genre de choses, en disant « mais moi j'y connais rien, je vois pas ce que je peux vous apporter », alors qu'effectivement notre démarche était « nous allons vous apporter quelque chose et nous vous demandons en contrepartie votre avis ». Mais c'est un travail long de mobiliser les gens sur ce thème-là. Peut-être qu'à Paris on a plus réussi parce que les réunions ont été séparées, ont été espacées de plus de temps, et que ça a permis, effectivement, comme un certain nombre d'actions ont été menées par ailleurs, ça a permis de développer quelque chose qui a fonctionné un peu mieux à Paris, encore que ce n'est pas miraculeux non plus. On a eu effectivement des représentants institutionnels qui sont venus dans ces réunions, je pense aux représentants des Corévis, à des représentants régionaux, parfois des représentants des institutions, ministère de la Santé, etc. Et puis on a eu des médecins qui sont venus parce qu'ils venaient s'informer, parce qu'ils n'avaient aucune idée de quoi on était en train de parler, en fin de compte. Et puis, quelque chose d'assez intéressant quand même, on a eu des tenanciers d'établissements gays qui sont venus et qui nous ont apporté, je dirais, une autre vision des choses. Ils se faisaient un petit peu les relais de leur clientèle, en quelque sorte. Oui. Voilà, la consultation communautaire s'est tenue sur. S'est déroulée entre février et juillet 2010. Et le rapport, nous avons fait à la suite de ça un rapport de consultation communautaire, dont je vous présente là un certain nombre des recommandations qui ont été édictées. Je ne vais pas les passer en détail parce que ce qui m'intéressait beaucoup plus, c'était de vous présenter la façon dont on s'y est pris pour mobiliser la communauté. Il n'empêche que nous avons émis un certain nombre de recommandations grâce à ce travail, des recommandations d'ordre général qui portent essentiellement sur une nécessité de transparence, de participation associative et de considérer que ce n'était que le début d'un travail, que l'essai qui allait se poursuivre, qui était l'essai Hyper-Gay, en fin de compte, n'était que le début de l'histoire et on se rendait bien compte que il faudrait travailler au-delà. Il se fait qu'aujourd'hui, on est un petit peu à ce point-là. On a émis beaucoup de recommandations à usage, je dirais, du comité de pilotage de l'essai pour dire la manière dont la communauté estimait que cet essai, dans quelles circonstances cet essai devait se dérouler. Beaucoup de ces recommandations ont été suivies. Un certain nombre ne l'ont pas forcément été. Je pense particulièrement à cette idée d'installer des centres investigateurs hors du cadre hospitalier. C'est sûr que ça s'oppose à un certain nombre de problèmes réglementaires et techniques qui ont fait que jusque-là, ça n'a pas réussi à se faire. En revanche, effectivement, des recommandations du genre de celles qui précisent qu'en matière de counseling, et en matière d'accompagnement des gens dans l'essai, il était indispensable qu'on ait des personnes qui soient au contact et qui connaissent bien la communauté. Effectivement, ça, c'est typiquement le genre de choses qui s'est vraiment mis en place dans l'essai Hyper-Gay. Et puis, on a aussi émis un certain nombre de recommandations qui étaient sur, je dirais, qui étaient plus à usage des associations et de la communauté, qui consistaient à dire que cette occasion qui était offerte de réfléchir à la prévention, à une époque où, en fin de compte, le milieu LGBT avait considéré que c'était les associations de lutte contre le sida qui étaient porteurs des questions de santé, l'idée de dire qu'il fallait une remobilisation sur ces thèmes-là, sur les thèmes de la prévention au sein de la communauté, ce sont quand même des choses sur lesquelles la consultation communautaire a donné des résultats intéressants parce que l'idée c'était effectivement de dire il faut que la communauté se ressaisisse de la prévention pour faire avancer les débats. Alors finalement les bénéfices, c'est un peu ça. Les bénéfices de cette consultation communautaire pour nous ont été de permettre de travailler ensemble entre associations de lutte contre le sida et associations LGBT, de faire à ce que la communauté se réapproprie des sujets qu'elle avait un peu laissés de côté. Et en fin de compte, ce projet d'essai PrEP a été perçu effectivement comme une opportunité pour des associations LGBT de reprendre un discours sur la prévention, de se mettre de créer une sorte de remobilisation du milieu LGBT qui, à ce moment-là, était beaucoup moins dans lequel les associations de lutte contre le sida étaient beaucoup moins audibles. Et effectivement, on a bien vu dans les années qui ont suivi que cette mobilisation s'est réalisée. Il y a effectivement un certain nombre de limites de l'exercice qu'on a mené qui sont claires. D'abord, le fait qu'on a un peu été à marche forcée là où toute la littérature qu'on avait consultée sur les processus de consultation communautaire disait que c'était des processus qui étaient longs dans le temps. Bah, nous, finalement, on a fait une consultation communautaire en 6 mois. C'était un peu présomptueux de penser qu'on pouvait arriver à des résultats fantastiques en la matière. Et effectivement, la consultation communautaire a surtout donné une consultation associative, puisque, en fin de compte, on a assez peu touché le fameux gay lambda dont tout le monde parle sans jamais savoir où il se trouve. Effectivement, c'est un peu ça la limite, les limites auxquelles on s'est heurté. Et puis sur le fond, effectivement, on s'est bien rendu compte que d'arriver en présentant le concept de PrEP et l'idée d'un essai, en fin de compte, l'essentiel, dans la tête des gens, il y avait une confusion relativement importante parce que leur propos n'était pas tant, surtout que en général les gens n'avaient pas la notion de recherche clinique, leur propos n'était pas tant d'analyser, d'étudier ce que pouvait être un essai, mais beaucoup plus le concept de PrEP en lui-même, qu'est-ce que représentait la PrEP dans la communauté, ce qui n'est pas inintéressant non plus d'ailleurs. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir qu'un processus de consultation communautaire, immanquablement, est un processus qui transforme les gens. Et donc, forcément, c'est un peu aussi le reproche qui a pu nous être fait, c'est de considérer qu'en fin de compte, on était plus des agents recruteurs que des agents d'information, même malgré toutes les précautions oratoires qu'on a pu prendre, mais qui nous ont quand même permis néanmoins d'aboutir à la sortie d'un rapport de consultation communautaire qui dit énormément de choses sur la communauté et sur sa façon de percevoir les choses, rapport que vous pouvez trouver très facilement sur le site du groupe TRT5 et qui reste, je crois, encore aujourd'hui assez passionnant à lire. Donc voilà ce que je voulais vous dire de cette consultation communautaire, de ces années au préalable de l'étude. Une des principales recommandations de ce rapport de consultation communautaire était de dire qu'il fallait que les associations accompagnent l'essai et soient regroupées dans un comité associatif. Et donc, effectivement, à partir de 2012, le comité associatif est devenu une réalité. Et c'est Bruno qui, maintenant, va vous présenter ce que ce comité a fait.
Bonjour à tous, à toutes et aux autres. Moi, je suis Bruno Brive, du J'en suis Gireste et des Flamants Roses, des associations basées à Lille. Alors, je représente la réalité du comité associatif, comme a dit Hugues. Je vais prendre seulement quelques minutes et je vais être plutôt dans le concret. En tout cas, je vais essayer. Alors, effectivement, la mise en place de ce comité associatif, donc ce troisième comité par rapport au comité scientifique et au comité indépendant dans les CIPER gays, est issu de la consultation communautaire qui a lieu au printemps et à l'été 2010. Et moi-même, comme membre d'associations LGBT, j'ai participé à ces consultations. J'ai même, au sein du J'en suis Gireste, le centre LGBT, organisé une sorte de consultation communautaire interne dont on n'a pas envoyé de compte-rendu au TRT5, on aurait peut-être vu, mais en tout cas, on l'a fait au moins pour se former, vu qu'on était sollicité. Alors, le début mars 2011, eh bien, dans notre association, on reçoit un courrier de l'ANRS nous invitant à venir à Paris pour une rencontre, une réunion d'information sur le projet d'essai. Et on nous invite à prendre part, lors de cette réunion, au comité associatif. Alors, on réfléchit et on dit oui. On présente une candidature qui est acceptée par l'ANRS. Et c'est comme ça que fin avril 2011, l'aventure pour nous commence, puisque c'est la première réunion du comité associatif, la première rencontre avec les membres de l'ANRS et la première rencontre avec les membres du conseil scientifique. Alors ce comité associatif qui est issu de la consultation communautaire a des rôles et des missions qui sont détaillés là. Alors j'ai recopié ce qu'on trouve dans le protocole de l'essai. Je ne dévoilerai rien d'autre du protocole de l'essai puisque le professeur Jean-Michel Molina est là et me regarde. Donc. Et ça c'est issu du travail. Il a beaucoup circulé, oui, c'est un autre détail. Alors, vous voyez qu'il y a un certain nombre de missions qui sont dévolues au comité associatif. Je ne vais pas les relire, vous les avez sous les yeux, mais on peut dire que, pour résumer, le comité représente de manière indépendante les intérêts des participants à l'essai. Et d'une certaine manière, représente aussi les intérêts des bénéficiaires de la future stratégie de PrEP. C'est comme ça que c'était pensé à l'époque, mais c'est devenu d'actualité aujourd'hui. Et un point à préciser aussi, c'est que ce rôle, ces missions du comité s'inscrivent dans le cadre d'un ancrage communautaire et dans l'essai, l'ancrage est double. Il y a d'une part les associations communautaires comme AIDE, par exemple, qui sont opératrices de l'essai, avec une présence dans le comité scientifique plus une présence auprès des participants à travers le rôle des accompagnateurs de l'essai. Et puis d'un autre côté, l'autre partie de l'ancrage communautaire, c'est nous, le comité associatif. Alors, pour donner des faits, je vous ai écrit la composition du comité associatif à sa création, hein, qui regroupe des associations de deux types, pour aller vite, des associations plutôt dans le champ VIH-SIDA et des associations plutôt dans le champ LGBT. Bien sûr, il y a des passerelles entre les deux, mais tout de même, ça donne une idée. Ce qui est intéressant de remarquer aussi, c'est qu'il y a des associations d'un peu partout en France. Au début, quand l'essai devait commencer, on savait qu'il y aurait des sites à Paris, et deux sites à Paris, un site à Lyon, mais ça n'a pas empêché des associations d'autres coins de France de vouloir participer au comité associatif. Donc ça, c'est une donnée que je trouve intéressante. Bien sûr, il y a eu des évolutions dans cette composition, puisque des associations sont parties, d'autres sont arrivées, certaines sont parties puis revenues, enfin bon, ça a bougé, bien sûr. On a défini des règles pour la participation des associations à ce comité. La première des règles, c'est de ne pas être une association opératrice. Hein, si on fait du recrutement, par exemple, ce n'est pas possible d'être dans le comité associatif parce que ce serait un conflit d'intérêts avec la notion d'indépendance. Malgré tout, ça ne veut pas dire que le comité associatif existe dans une tour d'ivoire complètement dissociée de l'essai, bien au contraire, puisque le rôle en particulier du comité, c'est de participer à sa visibilité, à la visibilité de l'essai, et que ses membres soient aussi une ressource associative communautaire pour répondre aux questions des personnes qui s'intéressent à l'essai, sans forcément avoir les réponses à tout, mais en tout cas avoir un niveau de compétence suffisant pour répondre, en particulier. Bon, et pour être membre de l'essai, donc la deuxième règle, eh bien, il faut le vouloir explicitement, donc faire une candidature auprès de la NRS qui nomme. Et depuis, la NRS nous a aussi demandé notre avis sur les associations qu'on pourrait avoir dans le comité associatif. Quelques données sur le fonctionnement que nous avons décidé ensemble au début de nos premières réunions. Alors d'abord, la recherche du consensus entre nous, c'est-à-dire qu'on prend nos décisions suite à des discussions, parfois longues, en évitant de recourir à un vote rapidement pour trancher entre les membres. C'est plus intéressant de créer l'espace d'échange, l'espace de débat, l'espace de consensus, donc où on arrive à une métabolisation commune d'une position, sachant que c'est très compliqué. Et c'est compliqué pour la raison que c'est complexe, complexe au sens où il y a plusieurs morceaux qui peuvent avoir des avis différents. Ce qui est difficile, c'est de rendre la complexité de ça, bon, pour ne pas simplifier les positions. Ce point-là, j'aurai l'occasion de le développer à propos de ce que j'appelle la crise de 2012. Je vous en parlerai. Alors, il y a aussi une question de réactivité, c'est-à-dire qu'on compte, c'est-à-dire la NRS, le comité scientifique, compte sur le comité associatif pour se prononcer parfois et donner des informations, faire remonter des choses. Donc il faut que les membres du comité soient réactifs. Alors ça veut dire répondre aux mails, ça veut dire être présent à des réunions, ce genre de choses très concrètes. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que le comité associatif donc, représente des associations, mais concrètement ce sont des gens de ces associations-là, évidemment, qui viennent à des réunions. Mais il faut que ces personnes soient en capacité de porter la voix de leur association, ce qui peut parfois prendre du temps. Et il faut aussi que ces personnes-là soient en capacité de représenter une voix qui existe vraiment, qui soit vraiment une parole collective. C'est là que c'est intéressant et c'est là que ça a un lien avec ce que la consultation communautaire avait pensé, c'est que les personnes comme moi, par exemple, qui doivent porter une parole sur l'essai au sein du comité associatif, il faut que ce soit quelque chose qui revienne à toute l'association que je représente. Donc j'ai besoin d'en parler avec les gens de l'association, d'organiser des réunions, de faire des débats là-dessus. Oui. Et ça contribue d'une part à la formation de toutes les associations, enfin de tous les membres de l'association que je représente, mais ça contribue aussi à la construction d'une parole collective en France de différentes associations qui mettent en commun des paroles et on voit comment ça se tricote ensemble. Alors la transparence et l'ouverture, c'est qu'on essaie de faire en sorte qu'on puisse nous joindre, on puisse dire clairement ce qu'on fait et qu'on admette que d'autres associations pourraient venir avec nous. Hein, ce n'est pas une chasse gardée, la présence au comité associatif. La collégialité, c'est qu'on a décidé qu'il n'y aurait pas de président ni de porte-parole, malgré une demande de la NRS. Et ça, c'était dans le but de permettre la collégialité au sens où la complexité du point de vue, vous voyez, parce qu'évidemment, pour une institution type la NRS, c'est beaucoup plus simple d'avoir un interlocuteur unique. Pour des associations du comité associatif, c'est beaucoup plus simple, en fait, de montrer qu'on est beaucoup et que l'on ne pense pas forcément la même chose. La NRS prend en charge le financement de nos transports quand on se réunit, de la nourriture quand on mange le midi du jour de la réunion et de l'hébergement si besoin. Et puis la NRS prend aussi en charge depuis avril 2012 un secrétariat qui nous aide bien pour fonctionner. dans le cadre du comité, sachant que la présence des membres du comité est toujours bénévole pour le comité. Moi, par exemple, je suis bénévole dans mon association. Il y a des membres d'associations qui sont salariés de leur association, mais c'est, la présence au comité associatif n'est pas rétribuée par la NRS. Concrètement, que fait le comité ? Alors, je vous ai mis là une liste de typologies d'actions, si vous voulez. Alors, évidemment, on se réunit, hein. J'ai compté que depuis la création, il y avait au moins 60 réunions, à peu près, ce qui fait 4 par trimestre. Alors, éventuellement, pas uniformément distribuées, mais plutôt rapprochées. Par exemple, si on se réunit dans une ville, puisqu'on ne s'est pas toujours réunis à Paris, à peu près autour de ce jour-là, on peut aussi visiter un centre, on peut aussi rencontrer des acteurs associatifs, vous voyez, donc on peut mutualiser des temps de réunion pour en faire plus d'une à la fois. On a beaucoup travaillé sur les questions de communication, parce que notamment le comité scientifique nous a demandé de valider la note d'information qui serait remise aux participants dès le début. On a été consulté sur le logo, par exemple, qui a changé en cours d'essai. On a regardé les campagnes de communication sur l'essai, parfois en trouvant qu'on ne nous avait pas bien associé en amont à la préparation de ces campagnes. Enfin, ça a été compliqué. On a fait une rectification parce que la NRS avait publié dans un magazine, le magazine Prends-moi, un petit texte de présentation de l'essai dans lequel il n'était pas question du placebo. Alors ça ne nous a semblé pas possible, donc on a publié un rectificatif dans le numéro suivant. On a été amené par exemple à réfléchir à l'annonce des séropositivités dans le cadre de l'essai pour les participants. Donc c'est un travail commun avec le conseil scientifique, donc on a apporté de la réflexion. Et puis la NRS nous a toujours invités, c'est-à-dire éventuellement financièrement, nous donnant l'information et puis financièrement, nous a invités à participer à des journées scientifiques, donc pour la formation des membres du comité. Une petite chronologie pour que vous voyez à quoi ressemble l'action du comité depuis le début. Alors, d'avril à septembre 2011, c'est plutôt la mise en place, vous voyez la définition de la façon dont on va s'y prendre, et puis la lecture du protocole, enfin l'appropriation de ce que c'est que l'essai. À l'automne 2011 et l'hiver 2012, bon, alors l'essai démarre, du coup, on entre dans une phase où il se passe beaucoup de choses, y compris des polémiques, et donc le comité associatif est aussi sur la ligne de la polémique. En juin et octobre 2012, il y a une crise, j'en parle après, et de la fin octobre 2012 à aujourd'hui, bon, le comité continue, si vous voulez. On a fait un bilan, on s'est renforcé d'une certaine manière. Alors, la crise de 2012, de quoi s'agit-il ? Eh bien, le contexte, c'est qu'on sait qu'aux États-Unis, la FDA va autoriser la PrEP en continu. Alors, dans ce cadre-là, le directeur de la NRS, Jean-François Delfrécy, saisit les 3 comités de l'essai pour leur demander un avis sur la poursuite ou non de l'essai. Si bien que nous, le comité associatif, nous prenons ça très au sérieux. Nous publions un texte qui invite les différentes associations et les différents membres légués en général en France à nous envoyer des avis, des idées, et on en débat entre nous. Et ça prend la tournure qu'en fait on se déchire. Malheureusement, plusieurs associations quittent le comité associatif, notamment les associations VIH, ce qui est très étrange, c'est-à-dire qu'on se retrouve seulement entre associations LGBT d'une certaine façon, ce qui est intéressant aussi, mais bon, qui fait réfléchir. Alors je ne fais pas trop d'analyse là, vous voyez, mais j'ai plein de choses à en dire. Et on comprend que le comité ne peut vraiment pas parler d'une seule voix, sans quoi c'est trop compliqué. Vous voyez, il vaut mieux montrer qu'on est un espace où il y a de la réflexion, où il y a de l'échange, plutôt que de dire on pense ça absolument et c'est très simple. Malgré tout, le comité a continué, avec la confiance du conseil scientifique et de la NRS d'une certaine façon, mais on a aussi cherché à sortir nous-mêmes de la crise en faisant un bilan assez sérieux de ce qui s'était passé. Sous forme rédigée, on a rédigé un rapport de synthèse de nos différentes activités depuis le début, là on l'a présenté à la NRS. On a rencontré d'autres associations pour les inviter à rejoindre le comité, on a préparé des interventions pour aller dans différentes villes, et on a fait un certain nombre de recommandations sur la façon de fonctionner dans la suite. Par exemple, bon, des choses sur le fonctionnement, des choses sur la rencontre avec les participants, des choses sur la communication. L'une des recommandations qu'on a mises en œuvre, c'est la création d'un collège d'experts communautaires. Alors, c'est l'occasion que je montre la dernière diapositive. Donc, et maintenant, le comité aujourd'hui, en fait, a un peu deux instances, pas différentes, mais enfin voilà, il est un peu il n'est pas en deux morceaux, mais disons que le comité associatif existe toujours, il est resserré par rapport à ce qu'il a pu être, mais il s'appuie sur un collège consultatif d'experts communautaires qu'on a inventé, qu'on a mis en place, donc des personnes qui, de notre point de vue, savent des tas de trucs intéressants, et c'est dommage qu'on ne les ait pas de temps en temps autour de la table pour réfléchir avec nous, donc qui apportent une expertise communautaire. Donc elles sont là. Et puis, pour conclure, je vous dirais que grâce à simplement le fait de devoir faire cette présentation avec Hugues, j'ai relu les recommandations issues de la consultation communautaire de 2010 et je les ai regroupées là en trois grands thèmes. Un thème qui est sur l'essai, donc l'essai comment ça marche. Le deuxième thème qui serait l'implication des communautés LGBT dans la recherche en prévention, donc intéresser les gays par exemple, permettre une appropriation. Et puis le troisième thème, c'est faire fructifier tout ce qui se sera passé là pour que ça donne quelque chose pour d'autres projets de recherche, parce qu'un jour Hyper Gay va s'arrêter, hein, et aussi en termes de politique publique. Alors, moi je dirais que tout ça, finalement, c'est pas si mal. Hein. Comme a dit Hugues, on a appris en marchant, donc on est tombé plusieurs fois, mais quand même, c'est pas si mal. On a vraiment créé cet espace d'échange entre les différentes associations, on a fait dialoguer le monde LGBT et le monde VIH. Moi, par exemple, si je prends juste un exemple de mon expérience, c'est bien la première fois que j'ai rencontré Hugues, que j'ai rencontré des gens du monde de la recherche, donc je ne suis pas le seul dans ce cas-là, et à travers moi, donc ça a essaimé d'autres personnes. Sur le fait d'intéresser les gays, eh bien, au début, parmi les associations lilloises, j'étais la seule personne représentante, mais au fur et à mesure, une deuxième personne est venue, parce qu'elle s'est intéressée à ce qui s'est produit. Et puis, au tout début de la mise en place de l'essai, on s'était posé deux questions autour de la table, enfin les personnes qui voulaient mettre en place le comité associatif nous avaient interrogé sur notre positionnement sur la PrEP en tant que stratégie, et puis notre positionnement sur le schéma de l'essai, notamment le bras placebo. Bon, maintenant on répondrait sans doute très différemment à ces deux questions, mais évidemment c'est parce que c'est a posteriori. En tout cas, la consultation communautaire a produit le comité associatif. Et maintenant, le comité associatif va produire quelque chose. Ce quelque chose, c'est quoi? C'est encore en devenir, mais ça pourrait être, par exemple, un groupe interassociatif spécialisé en prévention. Voilà, je vous remercie.